l'école et que le Dieu nous bénisse au travers de ce ministère, de son ministère, le Lys des Champs.
J'aimerais lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. À partir du verset 28. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 28. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et nous pouvons dire Amen. J'aurais bien voulu être là lorsque le Seigneur parlait de cette manière. Ce jour-là, la foule qui avait suivi Jésus sur la montagne buvait ses paroles comme une autre fois les huissiers envoyés par les pharisiens buvèrent les paroles de Jésus. Eux qui étaient venus pour l'arrêter, ils sont revenus avec cette constatation. On n'a rien pu faire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce jour-là, Jésus avait parlé des pauvres en esprit, non pas des simples d'esprit, mais de ceux qui ont réalisé leur pauvreté intérieure, pauvreté spirituelle, qu'ils ont un ardent désir de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il avait parlé des miséricordieux, des affligés, de ceux qui ont le cœur pur. Il avait parlé du sel de la terre, de la lumière du monde, des oiseaux, des cieux. Et il avait même expliqué que pour parler à Dieu, il suffisait de l'appeler Père, tout en essayant de se comporter comme l'un de ses enfants. C'était le printemps. À cette époque de l'année, les premières pluies ont fait sortir les fleurs des champs. À cette époque, les premières chaleurs des rayons du soleil font rapidement éclore toute la végétation et des hauteurs dominant le lac de Galilée où Jésus s'était installé, on ne voyait qu'un immense tapis de verdure qui se déroulait jusqu'à la rive, parsemé de taches multicolores des fleurs des champs. Et Jésus, se servant de ce tableau que tous avaient sous les yeux, avait dit à la foule, « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne sèment, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Et en disant « considérer », selon notre version seconde, une autre traduction dit « étudier comment croissent les lys des champs ». Je ne suis pas professeur de botanique, non, non. J'ai déjà bien du mal à être pasteur. Mais je crois que c'est une bonne chose d'essayer de comprendre ce que, d'une part, Jésus a voulu nous dire, et cette image qui se cache dans ces lys des champs. Par-delà les siècles, cette parole de Jésus nous invite, nous aussi, à monter sur la montagne, à nous asseoir aux pieds de Jésus et à considérer dans le grand livre de la nature de quelle manière croissent les lys des champs. C'est vrai que c'était plus facile il y a 2000 ans de regarder pousser les lys sur les collines de Galilée que de nos jours en plein centre de ma ville natale de Nantes. parce que délices. J'ai regardé ce matin, j'ai vu du lilas blanc, du lilas lila, du lilas. J'ai vu des glycines, beaucoup de glycines. Délices, oui, bon, considérons comment ça se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'un lys va sortir de terre? Qu'est-ce qui fait qu'un oignon, parce que, au départ, c'est un oignon. Qu'est-ce qui fait qu'un oignon va se transformer en fleur? Un paysan vous répondra avec son bon sens que si la fleur pousse, eh bien, c'est que c'est la loi de la nature. Un scientifique vous expliquera que lorsque la graine est fécondée, qu'elle a germé, alors il y a une petite racine qui se forme, qui devient capable de puiser ses nutriments dans le sol, parce que lorsque les réserves de l'oignon ou de la graine sont épuisées, eh bien, il faut que la plante se débrouille toute seule et puis qu'elle tire sa nourriture du sol qui l'entoure. Bon, qu'est-ce que ça change? Le paysan comme le scientifique sont capables d'observer à leur niveau. Le paysan voit les choses peut-être plus simplement, mais le scientifique, eh bien, il les voit peut-être un peu plus compliquées. Mais en fait, tous les deux observent les mêmes lois que Dieu a placées dans la nature. La nature, d'où vient-elle? La Bible n'est pas un livre de science. Elle nous dit, avec les mots qui n'ont pas changé depuis le temps de Moïse, que c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Et même ce que nous ne voyons pas, il a tout créé, le ciel. Ça en fait des choses, dans ce qu'on appelle les cieux. Parce que même, il faut le mettre au pluriel, tellement il y a de choses là-dedans. La terre, les animaux, comme la végétation, tout cela est sorti des mains de Dieu. Et le Seigneur a donné des lois à tout ce qu'il a créé, non seulement dans le domaine physique, comme celui des lys des champs, mais également dans le domaine spirituel, celui qui concerne la vie de l'homme. Et il me semble que dans cette parabole du lys des champs, Jésus nous invite à nous servir des lois qui régissent le monde de la nature pour comprendre, pour essayer de comprendre les lois qui régissent le monde spirituel, parce que c'est le même Dieu qui a tout créé et qui a donné des lois comparables ou analogues, soit au domaine physique, soit au domaine spirituel. Comment est-ce qu'un oignon se transforme en fleur? Pour la fleur de lys, tout commence par un vulgaire oignon. Je ne veux pas discriminer les oignons, les mépriser, loin de moi. Mais d'un autre côté, n'en déplaise aux adorateurs de l'oignon, mais oui, ça existe. Il y en a qui adorent l'oignon depuis les années 40. Les adorateurs de l'oignon, moi, vous savez, je ne trouve pas la forme d'un oignon particulièrement esthétique. Bon, je n'ai jamais vu des oignons décorer des intérieurs sur un buffet, dans une coupe, quelques oignons. Mais par contre, j'ai vu des lys décorer quelques maisons. Bon, c'est vrai que dans les pays de l'Est, les clochers des églises sont en forme d'oignon. Bon, ça, c'est particulier. Mais entre l'oignon et la fleur de lys, eh bien, beaucoup, dont je fais partie, préfèrent la beauté de la fleur de lys. Mais la question est la suivante. Comment est-ce que la forme banale d'un oignon va se transformer en beauté et surtout en parfum? Tout simplement parce que Dieu a placé certaines lois dans la nature. Et ce même Dieu qui a placé ces lois dans la nature, qui sont capables de transformer un vulgaire oignon en une plante magnifique et odoriférante, ce même Dieu a placé des lois analogues dans la vie de l'homme pour nous transformer en quelque chose de beau et surtout qui puisse répandre la bonne odeur de Christ. En fait, la vie que nous vivons ici-bas sur terre est imprégnée de ces lois de la terre. Il y a quelque chose qui vient d'ici-bas, qui nous colle à la peau et qui déforme, qui salit et qui souille beaucoup de choses en nous. Il y a un principe qui souille nos pensées, qui les dénature. Il y a une loi qui dénature tout ce que nous faisons, que la Bible appelle le péché. L'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Romains, quand il veut faire le bien, c'est le mal qui s'attache à lui. C'est le mal qui est là. Le péché, c'est ce qui déforme notre vie. C'est ce qui la souille en la rendant aussi semblable que la vie des autres hommes, aussi semblable à tout ce qui est sale, de la même manière qu'un oignon sale ressemble à un autre oignon sale. Le péché est là qui répand sa grisaille, son uniformité sur chacune de nos vies. Le péché, c'est cette pesanteur qui nous entraîne toujours de plus en plus bas sur ce chemin large peut-être, mais qui descend à la perdition éternelle. Mais il n'y a pas que la loi du mal sur terre, il y a également les lois, la loi de Dieu. Il y a la loi du bien, il y a la loi du beau, il y a cette loi de la transformation d'un Dieu qui est capable de nous faire changer du tout au tout, de transformer notre vie. Il y a la loi que Jésus appelait la loi de la foi, par laquelle il disait « mais tout est possible ». À celui qui croit, cette loi qui peut tout changer dans notre vie et qui est capable de nous faire appeler Dieu notre Père et qui nous rend capable de vivre comme autant de ses enfants. Il y a cette loi de la foi par laquelle tout devient possible, même l'impossible, tout devient possible à celui qui croit. L'apôtre Paul explique que comment s'effectue cette transformation dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, dans ce verset 4 que je vais vous lire. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » La vie d'un oignon, en général, est liée à ce qui se passe sous la terre. C'est parce qu'il y a quelque chose sous la terre, c'est parce que l'oignon va entrer sous la terre, c'est parce qu'il va développer quelque chose sous la terre que la vie de l'oignon est possible. Posez un oignon de lys en terre, plantez-le en terre, enfouissez-le dans la terre. Eh bien, le printemps venu, il reprendra vie. La pluie, le soleil, les éléments vont déclencher le processus de croissance de la fleur parce qu'il est entré dans la terre. Alors quelque chose va sortir, va s'épanouir, quelque chose de beau, quelque chose de bon à respirer, un parfum. Mais poser cet oignon, non pas dans la terre, mais sur la terre. Laissez-le à même le sol, sans l'enfouir. Même si la terre est excellente, même s'il pleut et s'il fait soleil en bonne saison, cet oignon ne donnera aucune fleur et vous ne pourrez respirer aucun parfum odoriférant. Pire, au bout de quelque temps, cet oignon se desséchera ou pourrira sur place, tout comme se dessèche l'existence d'une âme qui n'est attirée que par les valeurs terrestres et tout comme pourrit le cœur qui laisse le péché l'imprégner et le gangréner et le dénaturer. Il y a quelque chose qui doit nous lier à la mort et à la résurrection de Christ, et de la même manière que lui est mort, nous aussi nous devons arriver à mourir, aux valeurs de ce monde, aux séductions de cette société, pour nous épanouir dans une autre vie qui soit à la gloire du Seigneur. Si Jésus est entré dans les profondeurs de la tombe après sa mort sur la croix, mais ce n'est pas pour succomber au péché. Et de même, si nous sommes identifiés à la vie de Christ lorsqu'il est descendu de la croix, lorsqu'il est mort, eh bien nous aussi, ce n'est pas pour pécher à nouveau, mais c'est pour nous épanouir dans cette vie nouvelle que le Christ nous a donnée. C'est pour vaincre le péché comme lui a vaincu le péché, comme peuvent vaincre le péché tous ceux qui croient en lui et qui marchent en nouveauté de vie. Comme dit l'apôtre, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre écrivait aux Galates. La beauté de la vie nouvelle que nous avons en Christ dépend de notre union, de notre communion avec le ressuscité, avec le crucifié de Golgotha, avec celui qui est mort et ressuscité pour nous libérer de nos péchés. Alors, mon frère, ma sœur, identifie-toi par la foi avec celui qui meurt sur la croix pour toi. Crucifie chaque racine de ta vie terrestre pour qu'elle cesse enfin d'alimenter ton cœur de ce poison qui ne cesse de faire la guerre à ton âme et qui t'enchaîne de plus en plus vers ces choses des ténèbres. Laisse donc les mains percées de Jésus, les mains percées du divin jardinier, enfouir en terre cet oignon informe et terreux qui est devenu ta vie, et crucifie ce vieil homme, cette nature irrégénérée dont parle si bien l'apôtre dans ses épîtres. Laisse-toi faire par les mains du Seigneur et tu verras ce que ta vie pourra devenir. Alors, comme Jésus, au troisième jour, tu verras quelque chose de nouveau jaillir en toi. Tu verras le printemps de ta vie se lever dans ton âme. Alors tu verras croître en toi cette autre dimension qui ne cherche qu'à sortir de terre pour s'élever de plus en plus vers la maison du Père, comme un parfum de bonne odeur, comme le parfum d'un sacrifice agréable au Seigneur, comme quelque chose qui monte sans cesse et qui s'élève toujours, parce que c'est là-haut qu'est sa patrie, c'est là-haut qu'est sa demeure. Alors tu sentiras les gouttes d'une rosée bienfaisante venant des cieux t'arroser continuellement de leur bénédiction. Alors tu ressentiras les rayons d'amour du soleil de Dieu réchauffer ton âme. Alors tu pourras voir en toi germer quelque chose de neuf, quelque chose de bon, quelque chose de beau, de pur, de parfait, à l'image de la vie de Jésus. Tu t'ouvriras enfin à la vie nouvelle de celui qui est en haut, dans le ciel. Dieu veut faire en chacun de nous quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de pur. Et si la loi du malheur et du mal ont marqué quelques pages de ton existence, laisse-moi quelques instants pour parler de cette loi d'amour. Cette loi d'amour de Dieu qui peut redonner à ta vie toute sa beauté, toute sa pureté, toute sa sainteté. Laisse-moi te parler de cette loi venue d'un Dieu qui est capable de transformer un vulgaire oignon terreux, sale, en une belle plante, au parfum odoriférant. Laisse-moi te parler de celui qui peut mettre dans ton âme les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de paix, d'amour, de pardon, de tolérance, non seulement d'aimer celui qui est dans le ciel, mais d'aimer son frère, et non pas le frère qui est à l'opposé géographiquement de nous. Oui, nous aimons bien tous les Australiens, tous ceux qu'on ne connaît pas, mais le frère, celui qui a t'écouté, celui auquel tu dois serrer la main, celui, enfin, je préfère m'arrêter là. Dieu est capable de changer et de mettre en chacun de nous cette loi d'amour. Le lys dont parle Jésus dans l'Évangile, c'est en grec classique le lys blanc, généralement considéré comme le symbole de la pureté. Mais la couleur précise du lys biblique reste toujours un sujet de recherche. Parce que il n'y a pas que des lys qui soient blancs, comme le lilas. Il y a du lilas qui est couleur lilas et du lilas blanc, mais le lys aussi a nombre de couleurs. On dénombre actuellement une centaine d'espèces de lys sauvages et des milliers de variétés de lys dans le monde, dont les couleurs peuvent aller du blanc au jaune, au rose légèrement bleuté. Et le mot utilisé par Jésus pour parler du lys fait probablement référence au mot hébreu « chouchan ». Je n'ai pas dit « chouchen », c'est pas pareil. Le « chouchan », non qui vient de l'égyptien, Shushan, qui a donné le prénom Suzanne, qui désigne non seulement le lys, mais le lotus, qui sont de la même famille. Et tous les lecteurs de Tintin, dont je crois qu'il y en a quelques-uns, dont moi, parmi nous ce matin, savent bien que la couleur du lotus peut être bleue. Quelle est donc la couleur du ça y est, j'ai perdu mon mot, du lys dont parle Jésus, puisqu'il compare la couleur du lys à ce vêtement d'apparat de Salomon. Salomon, vêtu dans toute sa gloire, eh bien, n'avait pas un vêtement équivalent à la beauté du lys. Dans la Bible, on trouve l'utilisation de la couleur du lys, notamment dans le Cantique des Cantiques, où la beauté de la Sulamite est décrite de cette manière. Ses lèvres sont un lys d'où découle la myrrhe. De quelle couleur sont vos lèvres? Si un jour vous avez les lèvres blanches ou bleues, allez voir le docteur. vous aurez un problème quelque part. Mais si vos lèvres sont comme je les vois, roses, rouges, eh bien c'est que tout se passe bien dans votre santé. Le rouge, voyez-vous, le rouge, c'était la couleur du manteau des rois, des puissants. Ah, de nos jours, on a des vêtements de toutes les couleurs. La couleur ne coûte pas très cher, mais à l'époque, le rouge et le pourpre, ce qui faisait la couleur des vêtements d'apparat, des rois, des riches, des puissants, eh bien, cette couleur venait de certains mollusques qui coûtaient très cher, le murex, et il fallait en avoir une grande quantité. Il fallait avoir environ 12 000 de ces petits mollusques pour fabriquer 1,5 g de cette couleur. C'est une couleur rouge qui coûtait très très cher, et ce n'était pas seulement les riches qui pouvaient se payer un vêtement rouge, un vêtement d'apparat, mais c'était les plus grands puissants, les plus grands monarques de la terre, comme Salomon. C'est cette couleur rouge que Jésus met en parallèle avec le lys. Regardez les lys. Regardez leur couleur. Et bien même Salomon, lorsqu'il avait revêtu son manteau royal, n'était pas aussi bien vêtu que ce lys que vous avez sous les yeux. Considérez les lys des champs. Eh bien, la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ nous revêt de bien plus de gloire que Salomon ne pouvait en avoir lorsqu'il était revêtu de ses habits royaux, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Vous avez encore plus de gloire que les plus glorieux de ce monde, parce que Salomon, quand il mettait son manteau d'apparat, son manteau de pourpre, tout le monde reconnaissait que c'était lui le roi, mais sans son manteau, qui l'aurait reconnu comme roi ? Je me suis toujours demandé qui reconnaîtrait la reine d'Angleterre sans ses tenues vraiment pastel, s'il est habillé comme tout le monde. Mais personne ne la reconnaîtrait. Eh bien, c'est cette image qu'utilise Jésus. Mais quand Salomon mettait son manteau, bon, il était glorieux, mais quand il rentrait chez lui, il enlevait son manteau. Il était comme tous les autres, tandis qu'un lys n'enlève jamais sa couleur. C'est sa nature. Il est comme ça, du matin au soir. Il fait beau, il pleut, c'est le jour. Il est toujours dans son manteau, dans sa couleur de lys. Ah, mon frère, ma sœur, la gloire de Dieu est sur toi. Non pas une gloire que l'on peut mettre, que l'on peut retirer, non, la gloire, elle est là depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Qui pourra te ravir de la main de Christ? Non, la gloire de Dieu est sur toi, la gloire du roi des rois, la gloire du Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une gloire que l'on peut mettre ou enlever, non, ce n'est pas une gloire qui est plus aujourd'hui, non. C'est une gloire qui est là, constante, comme la paix de Dieu, comme la présence de Dieu. C'est la gloire de notre nouvelle nature en Jésus-Christ, la gloire de notre vie nouvelle qui a fait passer notre âme des ténèbres à la lumière. C'est la gloire de cette couleur rouge, rouge du sang de celui qui est mort pour le pardon de nos péchés, qui est mort à notre place. À cause de nos péchés et de nos iniquités. Jésus nous invite dans ce passage à considérer le lys, considérer comment croissent les lys des champs. Le lys dont nous parle Jésus, qu'il propose à notre attention, n'est pas un lys qui pousse dans les jardins bien entretenus par une équipe de jardiniers dans une belle demeure d'un riche propriétaire. Non, c'est un lys qui pousse dans les champs. Plus exactement, un lys sauvage. C'est un lys qui pousse sans que personne d'autre que le ciel ne se charge de l'arroser ou de le faire ou de le réchauffer. En Israël, les lys des champs tranchaient toujours sur leur environnement parce qu'ils poussaient généralement dans les endroits pierreux. Et autour de ces pierres, il y avait des ronces, des épines, et puis il y avait quelques lys qui tranchaient sur cet environnement. Pour décrire combien la beauté de la Tsunamite avait touché son cœur, l'auteur du Cantique des Cantiques la compare à un lys qui pousse au milieu des épines. C'est flatteur pour la jeune dame en question, mais dites donc pour les autres demoiselles, comme un lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Ce lys qui pousse au milieu des épines, c'est l'image de ce que notre vie peut devenir avec l'aide de Dieu. Oui, tout n'est pas rose ici-bas sur terre, mais laissons les autres vivre à leur guise, comme des ronces, des épines, qui se déchirent, qui se font mal mutuellement. Toutes ces épines, ces ronces qui poussent sur le chemin large et spacieux, qui mènent à la perdition. Mais laissons notre foi en Dieu. Laissons ce qui a engendré en nous, dans notre âme, non seulement la paix, la beauté, la sérénité et surtout ce parfum de la bonne odeur en Christ. Laissons cette vie nouvelle s'épanouir. Nous ne sommes pas parmi les épines de ce monde. Nous ne sommes pas blessants, nous ne sommes pas piquants. Nous ne sommes pas en train de nous déchirer les uns les autres, non. Nous sommes ce lys des champs. Ce monde est ce qu'il est. Mais nous sommes autre chose. Nous sommes à l'image de Christ. Alors, si nous arrivons à laisser cette vie s'épanouir en nous, comme le chef des chantres pouvait le chanter du temps de David sur le lys lyrique, une sorte de guitare, de harpe, je ne sais pas, alors il se mettait à louer le Seigneur, alors nous aussi nous pourrons louer le Seigneur. C'est là le but de notre vie. Cette parole de Jésus nous dit aussi que les lys des champs ne travaillent ni ne filent pour acquérir cette beauté, cette splendeur et ce parfum. Ils ne travaillent ni ne filent. C'est vrai que le lys ne fait rien de lui-même pour devenir un lys. Au départ, c'est un oignon. Que pourrait-il faire pour devenir plus blanc, pour sentir meilleur? Il n'a rien à faire. Que peut-il faire pour que le soleil brille ou ne brille pas, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas? Non. Pour vivre, un lys laisse tout simplement la vie de lys qui est en lui suivre son cours. Pourquoi ne pas faire de même, mes frères et sœurs? Pourquoi ne pas laisser tout simplement la vie de Christ prendre de plus en plus de place, gagner transformer tout ce qu'il y a à transformer, chasser, repousser tout ce qu'il y a à chasser, repousser, et puis vivre tout simplement dans cette paix. Il ne travaille ni ne file, mais qu'est-ce que nous pouvons faire sinon laisser Dieu, par son esprit, agir dans notre vie? Le roi Salomon, lui, avait probablement des vêtements d'apparat qui avaient nécessité nombre d'ouvriers des plus habiles de tout le royaume d'Israël. Il avait fallu, pour lui confectionner son manteau, filer, tisser, couper, coudre, teindre, orner combien d'ouvrières. Oh, cela avait représenté du travail, mais pour un lys, pour le chrétien que nous sommes, tout a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ quand il est mort et ressuscité. Mais imaginez, sous la robe de Salomon, lorsque le roi était là, dans son cœur, c'était toujours, hélas, le cœur d'un homme, comme nous le montre la malheureuse fin de la vie de Salomon. Oui, il a pu avoir un beau vêtement, donner l'apparence. Mais la fin de sa vie est lamentable. Le lys, lui, n'a pas de vêtements à enlever ou à remettre. Il n'a aucun travail pour arranger son vêtement. Il ne fait aucun effort pour acquérir ses formes harmonieuses, sa couleur, son parfum délicat. Il manifeste simplement la vie qui est en lui. Alors, mon frère, ma sœur, laisse la vie de Jésus se manifester en toi. Crucifie la chair, ses désirs, ses passions, comme un oignon sale et informe, soit enseveli par le baptême en sa mort avec Jésus-Christ, au point de devenir une même plante avec lui. Alors, comme le lys des vallées, tu pourras marcher avec Jésus en nouveauté de vie sur le chemin qui monte, le chemin qui mène à la Jérusalem d'en haut. La perfection, la beauté du parfum du lys, c'est simplement la beauté, la perfection de la vie de Jésus que tu pourras reproduire dans ta vie. Avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Vivre comme il a vécu. Considérez les lys des champs, disait Jésus. Considère ta vie, dit le Saint-Esprit ce matin à ceux qui sont capables d'écouter sa parole. Considère ta vie. Elle pourrait devenir quelque chose de beau, de pur, de saint. Elle pourrait devenir un parfum de bonne odeur. N'oublie pas que tu n'as pas seulement qu'une dimension terrestre. Il y a quelque chose en toi qui appartient à l'autre monde, qui appartient au Seigneur. Laisse donc le soleil d'amour de Dieu parcourir ta vie, te réchauffer. Laisse donc la pluie du Saint-Esprit venir fertiliser ton cœur, parce que le Dieu qui fait de si belles choses dans la nature est capable d'en faire d'encore plus belles dans ton cœur et dans ton âme. Il veut te donner cette pureté, cette beauté et ce parfum que doit avoir toute vie chrétienne. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui est capable de faire de grandes choses. Que ta vie, Seigneur, se manifeste, qu'elle se renouvelle dans ceux qui en ont besoin, Seigneur. Tu vois ces oignons sales que nous sommes. Fais pousser quelque chose de neuf dans notre vie. Recrée-nous à ton image, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu pour cette parole. Merci à notre frère le pasteur. Quelques annonces. Donc vous avez ça sur votre programme. Où sont l'ado ou les ados? Je rappelle aussi que demain soir, nous avons notre réunion de conseil d'administration à 18h30. Et puis aussi, nous avons la sortie des trois églises le jeudi 23 juin 2016. Vous voyez, prenez l'inscription. Et puis la sortie des ados le 4 juin au Futuroscope à Poitiers, inscription jusqu'au 15 mai. Et le samedi 11 juin, 19h, nous aurons le rassemblement des églises avec le missionnaire Rigard du Sénégal. Et le dimanche 12 juin, culte à 9h45 et 16h, Dieu voulant, nous sommes en préparation de baptême. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h. Et puis aussi, mardi soir, la réunion de prière à 19h30, jeudi à 15h, la réunion d'évangélisation, et puis le samedi soir, la réunion de jeunesse, et le dimanche, le culte et l'adoration. Merci à tous les intervenants.
Bonjour, c'était pour vous prévenir que le dimanche 15 et 22, il y aura une vente de cartes et de petits cadeaux à l'occasion de la fête des mères et de la fête des pères pour les projets des ados, toutes les sorties.
Merci de votre soutien d'avance.
Merci. Travaillez bien pour qu'on puisse acheter. Voilà. On se lève et on chante « Je t'aime ». Ô Éternel, ce fut une joie de nous retrouver ensemble dans ce culte d'adoration. Saluez-vous les uns les autres et à bientôt, 16h.